vous invite à ouvrir la parole de Dieu en Jérémie, chapitre 4, les quatre premiers versets. Jérémie 4, quatre premiers versets. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture et avec justice, alors les nations seront bénies en lui, et ils se glorifieront en lui. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem, défrichez-vous un champ nouveau, et ne semez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu, et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre, à cause de la méchanceté de vos actions. Une deuxième lecture dans le prophète Osée, Osée chapitre 10, verset 12. Osée 10, 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour nous la justice. Et un dernier passage dans le Nouveau Testament, dans Colossiens, Colossiens 2, 8 à 15. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur des rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes ainsi ressuscité en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous étiez mort par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Seigneur, nous voulons nous mettre devant toi, devant ce texte, devant cette parole, pour écouter ton message. Encore une fois, Seigneur, je te demande vraiment cette grâce de n'être qu'un haut-parleur pour mes frères, mais aussi pour moi-même. Mais qu'à toi revienne toute la gloire de ce passage, au nom de Jésus. Amen. Notre dénomination d'église protestante nous vient, comme vous le savez, de la réforme du XVIe siècle. En effet, à cette époque, le révérend père Martin Luther, ermite augustin, maître Esprard, j'étais voir ce que ça voulait dire, et voilà, c'est une personne qui a reçu dans une université ou un collège spécialisé les degrés qui donnaient le pouvoir d'enseigner les humanités et la philosophie, tel Robespierre et Diderot. Donc, Luther était quand même quelqu'un d'érudit. Luther, docteur et lecteur de la Sainte Théologie, osait affirmer que l'Église instituée à l'époque était dans l'erreur. Le 31 octobre 1517, date à revenir évidemment, date de la Réforme, Luther allait placarder ses 95 revendications contre les ventes d'indulgence. Définition d'indulgence, accrochez-vous. Le canon 992 définit l'indulgence comme la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés, pour la faute qui est effacée, qui est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Je peux vous donner toute la définition écrite, ce sera peut-être plus facile. Alors, cette définition est tirée de l'encyclique Indulgentiam Sanctarium Doctrina de Paul VI, est repris dans le catéchisme de l'Église catholique au point 1471, suivi d'une explication. Toutes les références sont là. Donc, on est, c'est clair, enfin, si on peut dire, que c'est bien inscrit, que les vins de Jean servent à la rédemption. Quoi, hein. Donc, en fait, l'Église, à l'époque, vendait ces documents qui permettaient de suivre, suivant le prix bon, que vous mettiez riche, vous allez plus vite au paradis et pour un mort de quitter le purgatoire. Suivant ce qu'on avait, ce qu'on payait, ce qu'on achetait, et tout ça a servi pour faire la basilique Saint-Pierre à Rome, qui est très belle, entre parenthèses. Je ferme ma parenthèse. Ne cherchez pas indulgence dans la Bible, il n'existe pas. Le purgatoire non plus n'existe pas dans la Bible, mais nous trouvons quand même une seule fois indulgent qui s'apparente à doux, quelqu'un d'indulgent, qui est doux, et qui concerne les dirigeants de l'Église dans 1 Timothée 3.3, pour ceux qui veulent vérifier, le conducteur doit être impatient, indulgent. Voilà, juste ce mot-là, une seule fois dans la Bible, le mot indulgent. Mais c'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est pas mes propos d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est l'acte de Luther. Oser secouer le cocotier, si vous me permettez l'expression, dépoussiérer l'institution, réformer les traditions, défricher le champ de l'Église. Et je me suis posé la question, comment est notre champ Église ? Pas Église, Église nationale, peut-être aussi locale, universelle. Comment sommes-nous ? Allons-nous laisser, peut-être, ce champ sans entretien ? À l'abandon, sans réagir, peut-être ? Allons-nous continuer à regarder les épines pousser et nous envahir sans broncher ? Allons-nous continuer à accepter tout ce que les dirigeants mettent ? Ou dire, oh, peine perdue ! Si Martin Luther avait dit, oh, peine perdue, ben, on serait toujours catholique. Trois verbes qui ressortent de notre texte. Défricher, semer, moissonner. Défrichez-vous un champ nouveau. Vous avez remarqué, c'est un commandement. Défricher, il faut le faire. De ces deux textes de l'Ancien Testament que nous avons lus, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Moi, quand j'entends cette phrase, la première fois que j'ai lu ça, je me suis imaginé un terrain plein de ronces, plein de mauvaises herbes, plein de trucs, une terre à laquelle on ne peut avancer qu'avec des bottes, tellement la végétation est dense et les ronces ont envahi tout le bazar, sans oublier le nombre de bestioles, hein, les tiques, les araignées, les souris, les rats et tout ce qui s'ensuit. Vraiment, la catastrophe, quoi. On pourrait imaginer, bon, spirituellement, une vie pleine de péchés, de mensonges, d'incrédulité en tout genre, ou encore un champ de mission à conquérir. Une terre qui n'aurait pas été encore évangélisée, ou encore une rue de notre quartier qui, bon, oui, est un petit peu évangélisée, mais qu'il faut recommencer. Ou alors encore les églises, autour de l'église qui ne connaissent pas. Quelque chose à faire, quelque chose à défricher. Ou encore mieux, réformer le peuple de Dieu. L'église protestante réformée se disait, il faut te réformer, chaque fois réformer. Chaque fois, se réformer. C'est ce qu'on peut penser, mais c'est ce que nous fait aussi penser le texte de Jérémie, Israël, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations devant moi, dit l'Éternel, ça veut dire un peu, fais le ménage chez toi, quoi, hein. Donc nettoyer le teint. Alors, nombreux récits de réveil au sein du peuple de Dieu se sont déroulés de cette manière, hein. Vous avez déjà entendu parler du réveil de Josias, qui retrouve la Torah et fait le nettoyage des idoles. Il remet les portes du temple, il reconstruit le temple, il réinstaure le culte de Yahvé. Et pendant cette période, une paix est là. Et puis, il faut tout recommencer. Josias n'a eu qu'une période. Il faut recommencer. On pourrait aussi reprendre ce passage comme ça. Nous serions, alors, oui, à la recherche de nos idoles, de nos péchés cachés, de nos transgressions inconnues, peut-être, pour retirer de nos habitudes de pécheurs. Parfois, on a une habitude, comme ça, on ne se rend plus compte. On ferait le ménage avec nos propres forces, oh Seigneur.
Ça arrive, oui. Comme des choses qu'on ne sait pas se décharger, et puis on essaye par nos propres moyens. Et alors, on essaierait de défricher notre terrain avec nos rites, nos activités, nos cultes, nos offrandes, avec nos indulgences, peut-être. Si j'ose dire, on essaierait par nos propres moyens, peut-être de payer la bonne conscience. Je vais à l'église par bonne conscience. Jérémie entoure ce que dit l'Éternel, défrichez-vous un champ nouveau, de deux conseils directs. Si tu jures, l'Éternel est vivant, avec vérité, avec droiture, avec justice, alors, conséquence, alors les nations seront bénies en lui, ils se glorifieront en lui. Si tu fais, si tu jures de t'engager, alors les nations seront bénies. Et au verset 4, circoncisez-vous, pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs. Conséquence, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. La conséquence est terrible. Ce sont tous des ordres. Si tu jures, circoncisez-vous. Si tu jures, si premièrement, si tu prêtes serment, si tu t'engages en vérité, en droiture, en justice, je dirais jusqu'au plus profond de tes tripes, si tu t'engages, alors les nations seront bénies. On a quelque chose à faire. Les nations, qu'est-ce que j'ai à voir avec les nations? Déjà en Belgique, on est déjà pas mal, on essaie de faire ce qu'on peut dans sa petite église, mais la mission, c'est quand même d'aller jusqu'au bout des nations. Allez, faites des disciples à Jérusalem et jusqu'aux extrémités. On doit quand même avoir une vision des nations et du monde entier comme terrain de mission, en tant qu'église locale. Mon Dieu n'est pas n'importe qui. L'Éternel est vivant et il est un grand Dieu, le grand Dieu sur toute la terre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, circoncisez-vous. Je ne suis pas juif, moi. La circoncision n'a plus rien à voir chez les chrétiens du XXIe siècle. C'est l'Ancien Testament, donc plus de conséquences négatives non plus. C'est quand même marqué que ça ne concerne pas les femmes. Alors, qui ça concerne? Pourquoi? Pour nous, rien à voir. La circoncision, quand même, est le signe extérieur donné à Abraham pour désigner ceux de son peuple. Ce n'est pas un gage de bonne conduite. Ce n'est pas parce que le peuple a été circoncis dans le désert, que ça ne va pas empêcher de regarder au vent. Jérémie recommande la circoncision pour l'Éternel, la circoncision du cœur. Du cœur. Que l'intérieur soit comme l'extérieur. Surtout. Voilà ce que, pour nous aujourd'hui, juifs et chrétiens, voilà ce que dit Paul, Colossiens 2, que nous avons lu. Et c'est en lui, Jésus, que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais que la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Rien à voir avec circoncision qu'on connaît, classique. Nous devons vivre la circoncision de Christ, le dépouillement de la chair. Non, pas vivre comme la chair, mais par l'esprit. Et ça concerne les femmes aussi. Bien, mais bon, là on parle d'égalité, hein. Homme-femme, nous vivons par l'esprit, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dans Galates 5, 16. Jésus a effacé l'acte d'accusation qui nous condamnait, nous sommes blanchis. C'est la justification. Ce qui est notre ressort, j'ai déjà dit souvent, c'est notre sanctification. C'est le travail que nous devons accomplir sur nous-mêmes pour tendre vers le parfait. On n'arrive pas tout seul. Hein. Heureusement, dans le Saint-Esprit, on a beaucoup de choses pour nous aider. Mais on n'y arrivera pas tout seul. Non pas à coup d'activité et de redites, de vaines redites, mais juste en se soumettant au Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup de choses qu'on sera sanctifié. C'est juste par le Saint-Esprit et par l'œuvre de Jésus-Christ. La sanctification, elle a des conséquences. Dans Hébreux 12, 14, voilà ce qu'il nous est dit. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est Calvin qui disait, le troisième sacrement, il y a le baptême, la Sainte Cène, et le troisième, c'est la sanctification. Il faut se sanctifier. Alors deux choses, avant de défricher, de semer, de moissonner, il faut s'engager. Se sanctifier. Et je reviens à notre texte, défrichez-vous un champ nouveau. Deux fois seulement, nous retrouvons cette expression en Jérémie et en Osée, comme on l'a lu. Mais le texte original donne un autre sens que ce qu'on peut imaginer. Donc dans la pensée hébraïque, voilà ce qui est dit de « défrichez-vous un champ nouveau ». Exactement, si on peut aller dans l'offre des choses, c'est « défrichez-vous un champ défriché ». Ça, c'est la pensée hébraïque. Et j'ai été voir Chouraki, lui, il traduit « faites rayonner pour vous un rayon ». Ça demande une explication quand même, hein. Alors un rayon, j'ai été gratter un peu tout ça, est le premier sillon que le laboureur trace dans le champ qu'il prépare avant de l'ensemencer. Le rayon, c'est le premier sillon. C'est le départ de préparation de la terre avant de jeter la semence. Le terrain a déjà été nettoyé des mauvaises herbes. Et on peut penser à Christ qui a déjà fait le travail. Il est déjà venu pour nous sauver du péché, il a tout accompli, le terrain est parti propre. Et il nous demande juste de nous engager à faire le premier sillon, à faire le premier pas. Et il mettra en garde ceux qui mettent la main à la charrue, hein, et qui regardent en arrière, ils ne sont pas dignes du royaume de Dieu, dans Luc 9, 62, se retourner, c'est prendre des risques de dévier. Imaginez quelqu'un avec sa charrue qui essaie d'aller tout droit et puis qui se retourne. Pas sûr que la charrue va aller tout droit. Sauf si on a un bon cheval qui tire, mais c'est pas dit. On ne regarde pas en arrière. Et en hébreu, la racine du mot pour champ nouveau, champ défriché ou rayon, est aussi la même que lampe. C'est la même racine. Vous savez, en hébreu, il y a toujours trois lettres de base et c'est la même racine que lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Défricher un champ nouveau, c'est rallumer la lampe. Rallumer la lampe qui est éteinte peut-être depuis trop longtemps ou qui s'est affaiblie. C'est être ce phare dans la nuit que le Seigneur nous demande d'être aussi bien individuellement que communautaire. Luther, en affichant ses thèses, n'avait pas dans le but de faire une nouvelle église. Pas dans le but de faire une église protestante. Il ne voulait pas quitter l'église catholique. Il voulait juste ouvrir la discussion sur les hérésies. Ouvrir les yeux des membres de l'église pour dire non, ça, c'est pas parole de Dieu. Et jamais il n'a imaginé qu'il serait avec d'autres réformateurs un des premiers sillons, si je peux dire, du champ protestant. Ce champ a défriché, a éclairé de nouveau, a réorienté vers l'écriture seule, par la grâce seule, au moyen de la foi seule, et pour la gloire seule de Dieu. Il n'a pas seulement secoué les autorités, mais il s'est aussi penché vers les paroissiens. Vous savez qu'à l'époque, la messe était en latin. Un des premiers sillons qu'il a creusé, c'est la traduction de la Bible en langue connue de son pays, d'entre autres l'allemand. Il mettait ainsi la parole de Dieu à la portée de tout le monde. Tout le monde pouvait vérifier ce qui était dit de l'Église. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors pour notre part, ne devons-nous pas nous aussi retrouver ce premier sillon de la parole de Dieu ? Je parle pour moi d'abord. N'avons-nous pas peut-être parfois dévié dans notre champ avec des idées bien déterminées ? Nous ne devons pas retrouver ce premier amour de la lecture de la Bible que nous avions lors de notre conversion. On bouffe la Bible. Avec le temps, qu'on est. Peut-être est-ce qu'on va aussi revoir, comme Guy l'a dit, nos a priori. Ce qu'on nous a dit, est-ce qu'on a vérifié ce qu'on nous a dit, ce qui est bien ancré dans notre tête. Et voilà, je pense que aussi nous devons avancer, créer de nouveaux sillons. Et le deuxième champ que Luther labourera est la mise à disposition des paroissiens et des enseignants d'un catéchisme. Il a écrit un grand catéchisme pour les prédicateurs et pasteurs et un petit pour monsieur et madame tout le monde. Il répondait à l'injonction de Jésus à l'effet de toutes les nations des disciples et enseignez-leur
à faire tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. » Martin Luther avait bien compris que la messe du dimanche n'était pas suffisante. Il fallait un enseignement plus costaud. Il fallait passer du lait à la nourriture solide. Peut-être que nous aussi, on doit se replonger dans des enseignements plus costauds. Relire la Bible avec un commentaire, se poser des questions en lisant la Bible, pas simplement la lire, mais creuser la Bible. Vous allez me dire, c'est parfois difficile. Oui. Un très bon commentaire, mais l'union fait la force, c'est aussi de partager ensemble, se retrouver ensemble, partager la parole de Dieu. Mais Luther aussi avait un secret pour arriver à défricher de nouveaux champs, et on revient à la prière. Il disait, bon, comme j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui, je dois prier beaucoup. Il paraît qu'il se levait tôt, il passait parfois 3 heures dans la prière avant de commencer journée. Oui, c'est ça, l'effort à faire. Il recommandait aussi la prière en communauté. Et voilà ce qu'il nous a dit, on peut et on doit prier partout et en tout lieu et à chaque heure. Mais nulle part la prière n'est aussi forte et puissante que lorsque les chrétiens rassemblés prient ensemble à l'unisson. À l'unisson, ensemble, dans le même lieu. La chambre haute, c'est ce qui s'est passé. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils étaient là tous en prière. Et ailleurs, il écrira, « Tout le règne temporel, donc du temps, ne se maintient que par l'ordre et le commandement de Dieu. Et par la prière des chrétiens. Voilà les deux colonnes qui portent le monde entier. Ce sont les deux jambes qui portent le monde entier. Le règne de Dieu, l'ordre et le commandement de Dieu et la prière des chrétiens. Là aussi, l'union fait la force. Mais ce qui doit surtout faire notre force, c'est aussi savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes simplement des chrétiens, des fils de Dieu, engagés ? Qui suis-je en Jésus-Christ ? Est-ce que je suis mûr en Jésus-Christ ? Et le passage de l'Épître aux Colossiens que nous avons lu nous dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Nous sommes vivants par la grâce en Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de nos mérites. Ce n'est pas parce qu'on a payé une entrée. Comme au cinéma, on a le droit de voir le film. Non. Non, c'est par grâce. Nos actions, nos activités n'ont rien à voir là-dedans. Nous ne sommes là que par l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu qu'il nous a donné. Alors, si je suis convaincu que je suis en vie, alors je dois défricher. Défrichez-vous, c'est un ordre. Je dois semer, je dois moissonner. Si je suis convaincu que ma vie est en Jésus-Christ et qu'il a préparé les œuvres pour moi, le terrain est prêt. Il a déjà fait une partie du travail. Tout est accompli. Christ a accompli tout. Il nous faut, nous, tracer le premier sillon. Et si je suis convaincu que l'Esprit habite en moi, je peux marcher selon l'Esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Alors ce qui est de notre ressort, s'engager, se sanctifier, défricher un champ nouveau. Michée 6,8, voilà ce qu'il nous dit. On t'a fait connaître aux hommes, j'ajouterai aux femmes, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Dieu ne demande pas de labourer tout un champ, de labourer toute la terre, juste commencer un sillon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, encore une fois, nous voulons nous mettre devant toi, Seigneur, te demander quel sillon nous pouvons démarrer. Et cela pour, juste pour ta gloire. Et merci parce que toi, tu as été jusqu'au bout. Toi, tu as fait tout le champ. Toi, tu nous as précédés. Pour que nous soyons fils et filles de Dieu. Amen.